Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient comme tous les jours. RFI vous propose de commenter l'actualité dans 30 minutes. Eh bien, nous parlerons ensemble du Trans-Ouest Africain. C'est ce vaste projet de plus de 2700 kilomètres. D'ici à 2 ans, une boucle ferroviaire reliera 5 capitales ouest-africaines, Abidjan, Ouagadougou, Niamey, Cotonou et Lomé. D'ailleurs, lundi, le Niger a inauguré la première gare de son histoire. Hier, de son côté, le Bénin a donné le coup d'envoi des travaux et l'objectif de ce projet étant de faciliter les échanges économiques, de permettre évidemment aux pays enclavés d'avoir un accès ferroviaire à la mer, mais aussi de faciliter le déplacement des passagers. Alors que vous inspire ce projet qui est censé renforcer l'intégration sous-régionale? Quelles peuvent être selon vous les retombées économiques? On attend évidemment vos réactions, vos commentaires, vos témoignages. Vous qui habitez certainement dans l'une de ces 5 capitales ouest-africaines, rejoignez-nous, nous vous donnerons la parole. 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions à la rédaction. Beaucoup de questions, et c'est le cas depuis le début de la semaine, concernant la brouille diplomatique entre Paris et Kigali. Sonia Rollet du Service Afrique est à mes côtés. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Et nous accueillons Parfait qui nous appelle de Pointe-Noire. Bonjour Parfait.
Bonjour Juan.
Nous vous écoutons.
Ma question porte sur le génocide du Rwanda. Alors, à l'heure de la commémoration du génocide du Rwanda, Paul Kagame va revêt les vieux démons en jetant l'anathème sur la France. Alors comment expliquez-vous l'attitude du président rwandais à l'endroit de la France? Et en quoi consiste cette motivation et que vise-t-il?
Alors Sonia, bruit diplomatique, elle est montée en crescendo à partir de samedi, dimanche, lundi. Paul Kagame qui a donc accusé la France dans un entretien accordé à nos confrères de Jeune Afrique d'avoir eu un rôle dans la préparation politique du génocide et dans son exécution. À l'Élysée, il faut le dire, ces accusations ont quand même surpris, on s'y attendait pas.
Ah oui, à l'Élysée, au Quai d'Orsay, évidemment, ils ne s'y attendaient pas du tout, puisqu'on était plutôt dans une phase de réconciliation depuis 2010. Il faut se souvenir de la visite de Nicolas Sarkozy, donc au Rwanda. C'était la première visite depuis le génocide. Et c'est vrai que on avait vu une coopération à la fois judiciaire, avec la création du pôle judiciaire qui pouvait permettre de traduire en justice les responsables du génocide qui étaient en France. C'était une première. On a vu que le premier procès, d'ailleurs, s'est tenu cette année. Oui. Donc c'était un travail en cours, et puis des déclarations de plus en plus qui montraient un réchauffement, voire même l'ambassadeur du Rwanda à Paris qui avait dit que c'était une relation d'amitié qui se nouait, et c'était il y a à peine un mois et demi.
Oui. Alors que s'est-il passé?
Alors c'est la bonne question et je pense que c'est assez difficile de répondre. Alors c'est assez traditionnel que le Rwanda ou le président rwandais accuse, pointe les responsabilités dans la communauté internationale au moment des commémorations du génocide.
On se souvient qu'il y a 10 ans, la France avait été également interpellée, pointée du doigt par Paul Kagame.
Oui, ça ce sont des vieilles accusations. D'ailleurs, eux-mêmes l'ont dit que ce n'est pas la première fois. Eux aussi ont été surpris par la violence ou en tout cas la manière dont l'État français a réagi. Alors pourquoi? C'est vrai que c'est assez compliqué de le comprendre quand il y a à peine une semaine, en fait, le président Kagame et le président Hollande ont, selon les autorités françaises, eu un échange plutôt cordial, plutôt amical, en marge du sommet Europe-Afrique. Donc je pense que là, il y a soit la volonté à nouveau d'essayer de reparler donc des problèmes, en tout cas c'est ce que disent les autorités rwandaises, qu'il ne faut pas cacher les choses et que donc il y a des problèmes entre la France et Rwanda et qu'il faudrait que la France reconnaisse ses torts, sauf que c'était pas le message qu'ils donnaient depuis 4 ans. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'experts qui se disent que c'est peut-être une manière de détourner l'attention d'autres critiques, des critiques qui concernent le Rwanda, cette fois des critiques en termes de droits de l'homme, en termes de démocratie. On sait que les États-Unis ont tenu depuis quelques mois des propos assez durs sur le Rwanda, qu'il y a des rapports d'organisation de défense des droits de l'homme, et notamment sur les attaques contre les opposants, mais aussi...
Les opposants en Afrique du Sud, mais aussi les rebelles rwandais du côté congolais.
Voilà, les rebelles rwandais du côté congolais, sachant que là, c'est quand même une autre situation, puisque c'est un groupe armé d'abord qui sévit dans l'est du Congo. C'est un groupe d'armée dans lequel des génocidaires se cacheraient, et au moins on sait qu'il y a l'un des leaders qui effectivement est poursuivi pour des crimes commis au Rwanda.
On repasse au standard, Sonia Rollet. Bonjour Aboubacar. Allô Aboubacar.
Oui.
Vous êtes à Kaï, au Mali. Allô. Nous vous écoutons.
Bien, moi j'ai deux petites questions. Est-ce que les accusations récentes de Kagame sont de nature à faire évoluer les relations entre la France et le Rwanda?
Alors on répond déjà à cette première question. Quid des relations franco-rwandaises, Sonia Rollet?
Alors hier, le porte-parole du Quai d'Orsay a dit que il souhaitait, ou que la France souhaitait, que la coopération continue dans certains domaines. On sait que la France et le Rwanda sont engagés ensemble, notamment en Centrafrique, puisque le Rwanda est dans la MISCA et qu'il y a l'opération Sangaris. On sait aussi que le commandant de la MINUSMA au Mali est un Rwandais, et qu'il y a donc aussi l'opération française. Donc il y a aussi la coopération judiciaire, et que tous ces volets-là, Paris aimerait pouvoir les continuer avec le Rwanda. Mais ce que dit Paris aussi, c'est que il faut que cela se fasse dans le respect mutuel. Et c'est vrai que ces déclarations, et vu que toutes les autres déclarations depuis le début de l'année, mais même depuis plusieurs années, n'étaient pas dans le sens de ce type d'accusation, c'est quand même une accusation de génocide, de participation directe au génocide et de complicité de génocide. Ça veut donc dire que le président rwandais accuse des militaires français d'avoir été aux côtés des génocidaires et d'avoir eux-mêmes massacré la population. Donc c'est vrai que ce type d'accusation, on a bien senti du côté des autorités françaises que ben voilà, il y avait une sorte de... Ça allait peut-être être plus difficile aujourd'hui d'avoir une confiance comme celle qui s'était créée ces derniers mois ou ces dernières années.
Et les propos de Paul Kagame ont eu des répercussions au sein de la classe politique française, puisque plusieurs personnalités demandent la levée du secret défense sur l'ensemble des documents concernant justement les relations entre la France et le Rwanda. Et sur ce point, d'ailleurs, hier, le ministère des Affaires étrangères français a réagi en disant que tous les documents et le travail de levée de secret défense avait déjà été fait en 98.
Voilà, disons qu'ils ont dit qu'il y avait un gros effort qui a été fait, ce qui est une évidence. Il y a eu un effort, il y a eu une mission d'enquête parlementaire, donc il y a eu un effort qui a été fait très tôt, 97-98, mais c'est vrai que ça soit au niveau de la classe politique, que ça soit au niveau des médias, mais je pense pas que ça soit nécessairement lié aux accusations de Paul Kagame. C'est que on a bien senti, même avec des dossiers avant ça, qu'il y avait une volonté aussi en France d'en savoir plus sur ce qui s'est passé, et de sentir qu'effectivement il y a eu un pays, la France, qui était très proche d'un gouvernement, le gouvernement d'Habyarimana, et puis qu'ensuite il y a eu des frais troublants pendant le génocide.
Ouais. Aboubacar, vous aviez une autre question?
Oui, la deuxième, on sait depuis des années que le Rwanda tourne le dos à la France. J'aimerais savoir tout simplement qui sont les nouveaux amis du Rwanda aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou bien à l'international.
Alors, du côté des Occidentaux, il y a évidemment déjà les Américains.
Il y avait les Américains. Maintenant, c'est assez difficile. On va dire que les alliés les plus proches du Rwanda aujourd'hui, c'est l'Ouganda et le Kenya, où il y a un véritable axe Ouganda, Rwanda, Kenya, et parfois contre d'autres pays de la même zone économique, de la zone économique des États d'Afrique de l'Est, comme la Tanzanie, avec lequel il y a des bisbilles avec le Rwanda. Le Burundi est souvent assez proche du Rwanda, donc ça fait un bloc. Mais c'est vrai qu'au niveau de la communauté internationale, les États-Unis, qui étaient un allié traditionnel du Rwanda depuis notamment la création du M23 et les accusations contre le Rwanda, comme quoi le Rwanda soutenait le M23, on a bien senti que du côté des États-Unis, il y avait un raidissement. Il y a même eu des coupures dans l'aide, des critiques qui était très claire, des coups de fil de Barack Obama à Paul Kagame pour lui demander de ne plus soutenir cette rébellion. Et puis, le volet droit de l'homme, où là aussi, on sent, en tout cas de plus en plus depuis cette année, qu'il y a un réel énervement des États-Unis vis-à-vis du Rwanda. Donc les alliés aujourd'hui, ce serait plutôt... Il y a encore la Grande-Bretagne qui ne s'est pas exprimée, ou qui n'a pas eu des propos trop durs sur le Rwanda en termes de droits de l'homme, mais plus sur l'M23. Et puis surtout, c'est ça qui était assez amusant, c'est que c'était plutôt la France qui venait, qui était souvent aux côtés du Rwanda, et notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies.
Ouais, d'ailleurs, le Rwanda est actuellement membre du Conseil de sécurité, voilà. Un membre non permanent, mais il est autour de la table, évidemment. Restez avec nous, Sonia Rollet. Encore une question à 10h20 à Paris. Bonjour Alain.
Bonjour.
Nous vous écoutons, vous nous appelez du Cameroun.
Oui, je vous appelle depuis Yaoundé. Comme nous le savons tous, la Belgique est l'ancienne puissance coloniale du Rwanda. Alors moi, ma question est de savoir quelle était son attitude avant, pendant et après le génocide. Et est-ce qu'elle a reconnu ses manquements et demandé pardon au peuple rwandais?
C'est une bonne question, d'autant que toujours dans ce fameux entretien que Paul Kagame a accordé à Jeune Afrique, le président rwandais dénonce un rôle direct de la Belgique dans la préparation politique du génocide.
Voilà, et ça c'est vrai qu'il y a eu une commission d'enquête aussi en Belgique, et d'ailleurs c'est ce qu'a dit la Belgique, puisqu'elle a envoyé des représentants au Rwanda pour les commémorations, c'est qu'ils venaient aux commémorations et la situation n'était pas la même que la France, même s'ils comprenaient l'attitude de la France, parce que effectivement, ils reconnaissent un rôle, peut-être pas dans la planification politique du génocide, mais voilà, une certaine influence sur les événements en amont. Et donc, ils ont effectivement présenté leurs excuses.
C'était en 2000. Voilà. Au nom de mon peuple, a dit à l'époque le Premier ministre, je vous demande pardon pour vous avoir abandonné.
Voilà, abandonné aussi, puisqu'il faut rappeler que le 7 avril, donc 94, 10 casques bleus belges de la Minoire sont assassinés, et qu'à partir de ce moment-là, la Belgique, unilatéralement, décide de retirer son contingent de la Minoire, qui était le plus important contingent, et qu'effectivement, du coup, il y avait quasiment plus de forces des Nations Unies pour intervenir.
Merci beaucoup Sonia Rollet d'être venue dans ce studio répondre à quelques-uns des auditeurs. On vous retrouvera certainement demain et après-demain pour continuer à répondre sur ces questions du Rwanda. 33 9 693 693 70. Bonjour Edbert.
Bonjour Juan Gomez et bienvenue à Parakou, Bénin.
Bénin, merci de nous écouter sur place et on salue évidemment ceux qui sont également à Porto Novo, à Cotonou, à Dosso. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter. Et vous avez des questions concernant le FC Barcelone.
Oui, Juan Gomez. Le FC Barcelone a été sanctionné pour un an pour avoir effectué des transferts illégaux de joueurs. Alors, comment peut-on expliquer cette sanction infligée au FC Barcelone? Alors que les transferts de mineurs, de joueurs mineurs sont courants.
Ah, les transferts de mineurs sont courants. Alejandro Valente, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Eder et bonjour à tous.
Vous êtes chef du service des sports de RFI, le FC Barcelone donc condamné pour recrutement illégal de mineurs, ça semble surprenant et en même temps, c'est ce que dit à l'instant Edbert, on a un peu l'impression que c'est un peu quelque chose qui se fait régulièrement. Que se passe-t-il avec le Barça ?
Alors, cette affaire, effectivement, est assez difficile à comprendre car, si vous voulez, la Barcelone possède une grande tradition dans la formation de joueurs. Son centre, connu comme la Masia, existe depuis des décennies, a formé des très grands joueurs. L'équipe actuelle de Barcelone, qui est considérée comme une des meilleures du monde, est composée pour l'essentiel des joueurs issus de ce centre de formation. Donc, ce n'est pas... évidemment, un centre de trafic où c'est vraiment un centre d'excellence. Mais il faut comprendre que ce centre fonctionnait selon des méthodes que la FIFA a en partie contestées. Parce qu'en 2009, devant l'importance croissante, comme le disait Eder, des transferts des joueurs mineurs, car beaucoup de clubs ont compris que avoir un bon centre de formation pouvait être financièrement très intéressant, s'y sont mis. Donc du coup, l'idée de recruter des jeunes joueurs est devenue courante. La FIFA a voulu réglementer, ce qui est quand même logique, et donc mettre des limites aux possibilités offertes aux clubs de transférer des enfants d'un club à l'autre. Donc ils ont mis des...
Ce que dit la FIFA, c'est qu'interdiction de procéder à des transferts de mineurs, sauf à quelques exceptions.
Voilà, disons que s'ils sont de nationalité européenne entre 16 et 18 ans, cela peut se faire sous certaines conditions. Et pour les autres, il faut remplir un certain nombre de conditions et avoir un accord au cas par cas en fonction de la situation de la famille. Si vous voulez, il faut que la famille habite à proximité, que l'enfant puisse rentrer chez lui tous les jours, que les parents n'aient pas été obligés de passer dans un autre pays pour suivre un enfant qui est recruté.
Donc ça signifie que pour la FIFA, le Barça n'a pas respecté un ou plusieurs de ces critères?
Voilà, disons que quand la FIFA met en place cette réglementation en 2009, Barcelone tout de suite, comme d'autres clubs, dit voilà, c'est bien, mais il y a des choses qui vont à l'encontre de notre fonctionnement. Ils essayent d'expliquer leur fonctionnement et de faire évoluer cette réglementation, ou à la limite d'obtenir des dérogations. Barcelone attendait une dérogation, et donc depuis plusieurs années, elle négocie avec la FIFA, tout en sachant que dans certains cas, ces mineurs pouvaient être en situation irrégulière, non pas tant par le fait d'avoir été inscrits au centre de formation, mais par les licences qui leur étaient accordées afin de jouer dans une équipe ou dans une autre. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Fédération espagnole qui a accordé ces licences est sanctionnée également. Donc, l'affaire est relativement complexe. Barcelone...
Barça crie au complot, hein, c'est ce que disait il y a quelques jours le président du club.
Bien entendu, parce qu'ils disent que ce genre de problème se pose dans beaucoup d'autres clubs. Donc, nous, on est ciblés. Et vous savez, Barcelone a souvent l'habitude d'estimer qu'il est victime des complots venus, évidemment, de Madrid et de son éternel rival, le Real Madrid. Donc, et Barcelone est convaincu qu'il y a eu une dénonciation précise, anonyme, qui est à l'origine de l'enquête qui a mené à ces sanctions.
En tout cas, le Barça fera appel auprès de la FIFA, et si ça ne marche pas auprès de la FIFA, auprès du tribunal...
arbitral du sport. Voilà, ça va se mettre en place à partir de vendredi, et ils espèrent au moins obtenir, disons, une suspension qui leur permettra de recruter des joueurs cet été.
Voilà, merci beaucoup Alejandro Valente d'être venu répondre à nos auditeurs. 33 9 693 693 70. Alfred, à qui Sangani nous dit, voilà un mois que le... Ah, mais il est là, on m'a pas fait signe, je pensais qu'on n'avait pas Alfred. Bonjour Alfred.
Bonjour Gomez.
Bienvenue, on vous écoute, vous avez des questions concernant la disparition du Boeing de la Malaysia Airlines.
Oui, effectivement, il y a plus d'un mois, l'avion de la Malaysia Airlines est porté disparu. Alors, j'ai deux ou trois préoccupations. La première est celle de savoir... où en est-on avec les recherches. La deuxième préoccupation, il y a quelque temps, il y a des signaux qui auraient été captés. Alors, je voulais savoir si ces signaux sont en rapport avec la boîte noire et quels sont les espoirs réels, si c'était le cas, de retrouver les victimes ou bien les débris de l'avion.
C'est vrai qu'un mois après, on ne sait toujours pas où se trouve cet avion. Bonjour Gérard Felzer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes consultant aéronautique, ancien pilote de ligne à Air France. Ce matin, les autorités australiennes ont annoncé que deux nouveaux signaux sonores ont été détectés. Est-ce que vous pensez qu'on parviendra à retrouver, à identifier véritablement le lieu où se trouve cet avion ?
Oui, depuis un mois, c'est la première information vraiment fiable parce que des émissions à 37,5 kHz, c'est-à-dire la fréquence des boîtes noires, il n'y a pas beaucoup de choses qui émettent à ce genre de fréquence. Encore qu'il faut se méfier, il y a beaucoup de bruit dans l'océan. Il y a des mouvements sismiques, il y a des animaux, il y a des cétacés qui sont capables d'émettre et de recevoir sur des centaines de kilomètres. Donc, il faut discriminer. Mais là, ça a l'air sérieux parce que ça s'inscrit dans la durée.
Signaux, Gérard Felzer, ils viendraient des boîtes noires, forcément.
Alors, du coup, ces signaux peuvent venir des boîtes noires, mais on a vu que les premiers signaux qui ont été captés, vous allez rire, mais c'est pas drôle du tout, mais c'était le crissement des mandibules de crustacés, vous n'avez qu'à voir. Ça peut, quand on traîne des sondes dans l'eau, il faut capter jusqu'à 4000 mètres de profondeur, c'est pas du tout évident. Là, aujourd'hui, ça a l'air sérieux, on discrimine donc un cercle de probabilité, et là, on va envoyer des drones, parce qu'à 50 mètres sous l'eau, c'est le noir complet, donc il faut éclairer, et ça prend beaucoup de temps, parce que même si c'est un cercle d'un kilomètre, ça prend du temps.
Évidemment, et il va falloir aller très vite, puisque les batteries des boîtes noires ont déjà atteint quasiment la fin de leur durée de vie théorique, puisqu'une boîte noire, ça fonctionne, je crois, une trentaine de jours, pas plus.
C'est ça, une trentaine de jours, mais c'est pas comme les dates de péremption des boîtes de conserve, ça s'arrête pas à minuit, donc il est possible que ça puisse durer encore 10 ou 15 jours, ça dépend de l'état des batteries. C'est moins grave si on est sûr que c'est dans cette surface, parce qu'on l'a vu pour le Rio-Paris, on a quand même pu trouver les débris, cette fois-ci avec des sonars, pour détecter des masses métalliques. Ouais. Donc, on a bon espoir quand même de le retrouver, cet avion. L'interrogation, c'est qu'on n'a pas trouvé de débris. Alors ça, c'est vraiment incroyable.
Voilà, et en tout cas, on espère, et les autorités espèrent, et les familles aussi, que ces nouveaux signaux vont permettre, effectivement, de réduire la zone de portée et de localiser au plus vite les premiers débris. Merci beaucoup, Gérard Felzer, d'avoir été avec nous. Je rappelle également que vous êtes chroniqueur dans une radio amie, France Info, tous les samedis matins.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.